Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Carnet de région. Au programme cette semaine, RCF Maglone-Hérault nous présentera un beau projet pour une belle fin de vie. Radio Barthas partira en rando découverte avec les élèves d'une école primaire. Radio Pays d'Hérault nous montrera que la vallée de l'Hérault soutient ses viticulteurs. Et enfin, 48 FM Mende nous parlera de la Lozère qui pousse le bouchon.
Carnet de région, l'actualité en langue de Roussillon.
RCF Maglone-Hérault nous présente un beau projet pour une belle fin de vie. Pour rompre l'isolement et la dépendance, un groupe de retraités héraultais a décidé de construire son hameau solidaire. Un petit village avec des habitations et des espaces communs à partager. Il sera situé juste à côté de l'Odève, à proximité d'un EHPAD. Le but, passer des jours paisibles tout en restant ouvert à la société. Thomas Loret a rencontré les initiatrices du projet.
Le rendez-vous est pris dans une petite maisonnette située à Saint-André-de-Sangonis.
Monsieur.
Bonjour, Madame Chevalier.
Oui, tout à fait.
C'est ici que Marie-Vonne a élu domicile en attendant que le projet aboutisse.
J'ai fait, à votre demande, fait venir des copines, voilà.
Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Et c'est sous les yeux de Michel et Monique que Marie-Vonne sort fièrement les plans de la future résidence des Coquelicots.
Vous avez 12 petites maisons. Et elles sont deux par deux.
Avec chacune de grands celliers et une terrasse aménagée.
Et après, vous avez une salle polyvalente avec 3 chambres. Les maisons sont en ossature bois. Les doublages seront en chambre. Et du coup, sur le plan énergétique, nous sommes très, très, très performants.
Au total, ils sont 12 à avoir adhéré au projet, dont Monique, ancienne infirmière de 68 ans.
On crée une nouvelle famille parce que bon, nos enfants, ils sont à droite et à gauche. Et donc, on sera plus seul pour une retraite active.
Et ces mamies ne devraient en effet pas manquer d'occupation. Comme le souligne Michel, ancienne fonctionnaire des impôts.
De la peinture, du modelage, s'occuper de la location dans la salle polyvalente, des jardins participatifs.
Elle a été rapidement convaincue et montre quelques signes d'impatience.
J'ai déménagé dans un meublé, j'ai mes meubles dans un hangar. Mes valises, elles sont à moitié faites. Hein.
Mais il faudra encore attendre quelques mois avant de s'installer dans ce nouvel Eldorado pour ceux qui ont atteint l'âge d'or.
C'était un reportage de Thomas Loret pour RCF Maglone-Hérault qui nous précise que pour l'instant, seules les fondations sont sorties de terre. Il ne reste plus qu'à trouver une banque pour débloquer un prêt locatif social et lancer la construction. Radio Barthas est parti en randonnée découverte avec les élèves de l'école primaire de Saint-Frézal de Ventalon en Lozère. Ces élèves ont été primés par le parc national des Cévennes. Christian Rameau, directeur de l'école primaire, Émeric Sulmont, garde-moniteur du parc, et bien sûr les enfants ont été les guides de Christophe Binot pour ce reportage.
La première chose qui peut être importante en forêt, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'est une forêt. Mais ça, je suppose que vous avez tous une petite idée. Pour vous, c'est quoi une forêt?
C'est ça là-haut.
Dans une forêt, il y a quoi? En premier lieu.
Des arbres.
Il y a des arbres. Dès qu'il y a des arbres, on est dans une forêt?
Non.
Ah.
Une
hêtraie. Une hêtraie, c'est ça. Ça, c'est quand on a des forêts avec un seul type d'arbre qui domine. Mais le plus souvent... Une forêt qui a poussé un peu spontanément, qu'on n'a pas du tout planté, et hop, ça sort tout seul. Vous avez plein d'arbres, vous n'avez pas qu'une espèce. Et là, la première animation ce matin, on va essayer de découvrir toute cette diversité d'arbres qu'il y a dans nos forêts. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, il y en a quand même pas mal. On va essayer de ramasser 5 rameaux d'arbres différents, c'est-à-dire qui appartiennent à des espèces différentes. On y va. Mais pas chacun, là. Vous travaillez ensemble.
Mais vas-y, mais on le garde dans la main parce que dans les poches et tout, elle va se traver.
Ouais.
Par contre, c'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui le garde.
C'est un chêne vert.
Ouais.
Donc t'as pris un... C'est un rameau, ça?
Je sais pas. Mais je crois qu'il a une maladie, non? Regarde.
Si, quand même.
Alors, on est à l'école de Saint-Frézal de Ventalon. Je suis avec le directeur de l'école qui nous accompagne pour cette randonnée. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu ce projet?
Le but, c'était qu'ils comprennent un petit peu leur environnement proche. Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas de leur racine familiale en Cévennes. Donc, j'avais choisi un itinéraire près de l'école qui fasse une boucle. On l'a réalisé avec une personne cantinière qui, elle, est ici, à ses racines cévenoles. Et en cheminant comme ça, soit eux-mêmes avaient des questions, se posaient des questions sur ce qu'ils voyaient, ou moi, je leur posais des questions sur pourquoi est-ce qu'on voit ici un pont, pourquoi ici il y a une ruine, qui pouvait bien habiter là, etc. Donc les thèmes, on va dire, qui ont été un petit peu évoqués, c'était un petit peu l'exode rural, en fait, par rapport aux ruines qui se sont retrouvées là. Des thèmes sur l'agriculture, un petit peu, la châtaignerie, l'élevage du mouton, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire des moutons. Aussi la présence de beaucoup de murs en pierre sèche, donc à la fois pourquoi est-ce qu'ils ont été bâtis, comment ils ont été bâtis, et la construction des voûtes, parce qu'on a la chance d'avoir les artisans bâtiments en pierre sèche, bâtisseurs en pierre sèche. Donc là on a profité pour essayer aussi de comprendre comment une voûte, ça se, comment on la construit et pourquoi ça tient. Et aujourd'hui, on est aussi sur une intervention, on va découvrir un petit peu la forêt, comment sont nos forêts.
Alors j'ai vu qu'il y avait un accompagnant qui fait partie du parc national des Cévennes. Alors pourquoi il intervient dans cette promenade découverte?
Donc voilà, Eric, il est là mais pour apporter déjà toutes les connaissances qu'il a et que moi je n'ai pas, je suis loin d'être un spécialiste. Et il va pouvoir aussi amener comme ça les enfants petit à petit à réfléchir, à se poser des questions et à découvrir un petit peu toute la richesse qu'on va retrouver dans notre environnement. Beaucoup de choses peuvent se faire comme ça avec le parc national des Cévennes.
On va dire que c'est une promenade pédagogique, mais j'ai entendu parler de flashcode.
Le but pour que les élèves soient un petit peu motivés, c'est que tout le travail fourni, il faut qu'à un moment, ils puissent servir à quelque chose, il faut qu'il y ait un but derrière. Donc cette randonnée que nous avons réalisée il y a quasiment 2 ans, on va l'aménager en disposant des petits flashcodes ou QR codes qui vont renvoyer sur Internet, sur les vidéos qu'auront réalisées les enfants, sur toutes les connaissances qui seront accumulées pendant ces 2 ans.
Alors si on a un intervenant du parc national des Cévennes, ce n'est pas pour rien, je crois que ça a été une initiative qui a été récompensée.
Au cours des interventions de personnes ressources qui sont venues à l'école, notamment des gardes-moniteurs du parc national, c'était Laurent Bellier, il m'avait informé que mon projet pourrait tout à fait rentrer dans le cadre des trophées du parc national des Cévennes sur la biodiversité et sur notamment le thème de l'an dernier, c'était les hommes et les paysages. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il a été primé, qu'il a reçu le trophée du parc national des Cévennes.
Et vous êtes une école particulière, je crois que j'ai vu que vous êtes labellisé.
L'environnement, en fait, nous sert comme thème, comme fil rouge, chacun. On essaie de trouver un projet phare qui va se dérouler tout au long de l'année. Voilà, mais c'est vrai qu'on a eu déjà d'autres labels, Éco-École notamment, ou le label 3D de l'Académie de Montpellier.
Soit le maître nous a posé des questions, soit nous on lui a posé des questions. Et en classe, y a des intervenants où on est allé voir des gens qui nous ont répondu aux questions. Et après, on a fait des genres de vidéos pour expliquer aux gens. Et après, on va encore faire la randonnée. Par exemple, on avait vu un pont et du coup, on va mettre, je pense ici, on va mettre un panneau avec un QR code, c'est ça ? Sur comment elles tiennent les voûtes.
Au revoir, Radio Bartas.
C'était un reportage de Christophe Binot pour Radio Bartas.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Radio Pays d'Hérault nous montre que la vallée de l'Hérault soutient ses viticulteurs. Le gel du mois d'avril a été fatal pour les vignéroltaises. Avec 30% de pertes en moyenne, c'est près d'1 million d'hectolitres qui pourraient être perdus cette année. Mais en attendant la récolte 2017 qui s'annonce compliquée, la communauté de communes de la vallée de l'Hérault a tenu, comme chaque année, son concours annuel des vins de son terroir. Pour la 31e édition, c'est plus de 200 vins qui ont été dégustés à l'aveugle au lycée agricole de Gignac. Un reportage de Sarah Gilman.
Table ronde, nappe blanche, les premiers vins sont servis aux jurés. C'est avec une attention toute particulière qu'ils dégustent.
Vous regardez déjà la teinte, la nuance. Puis là, il est ce qu'on appelle rubis. C'est un rouge assez profond. Et les reflets sont violets. Donc c'est aussi un gage de jeunesse ou de moindre évolution. Donc après, on sent plutôt les arômes au nez, donc en agitant le verre. Donc vous sentez déjà une première fois sans agiter, voir les arômes un peu primaires. Et ensuite, en agitant, on voit quels arômes sortent.
Et là, vous sentez quoi ?
Plutôt le côté un peu garrigue, un peu thym, laurier, et après fruits noirs. Et après, c'est en mettant le vin en bouche que vous allez sentir le gras, la matière, les tanins.
Œnologues, viticulteurs ou encore amateurs de vin, ils sont une centaine de jurés cette année. La rigueur est de mise, ils prennent des notes souvent très complètes.
Sur le premier vin, on a mis que c'était un vin avec une belle robe rubis, des reflets violines. C'était un vin limpide et brillant, avec une belle vinosité. Donc le nez était sur des notes d'élevage, côté vanillé, à l'aération, côté torréfaction, brioché, des notes de fruits compotés. En bouche, on avait une attaque souple, un milieu de bouche qui était fluide, des tanins fins et élégants, une rétro-olfaction sur les fruits confits et une finale longue et fraîche avec des notes d'épices douces.
Les jurés délibèrent et ne sont pas tous d'accord. Et oui, tous les goûts sont dans la nature.
Moi, j'ai pas mis le haut neuf.
Celui-là, moi, j'aime bien parce qu'il a une attaque très souple, très ronde. Et après, il a une fraîcheur sur le menthol, du coup, qui donne un côté assez désaltérant. Donc, c'est à la fois puissant, mais ça reste très élégant.
Ah non. Ah non, le P7, le nez n'est pas bien.
Nous, on avait noté que c'était un peu réducteur.
Ah si, c'est un de mes préférés, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il peut manquer un petit peu de caractère.
Des vins de qualité donc, parce que c'est aussi l'objet de ce concours, montrer que le vin du Languedoc est loin d'être de la piquette. Guillaume Bio, œnologue et président du jury.
Le Languedoc-Roussillon souffre d'un certain historique de vins de masse et de vins de production. Il faut savoir que la production ou la consommation de vins en France au début du XXe siècle, on était sur une consommation d'à peu près 80 litres par an par habitant, donc il fallait évidemment donner à boire aux agriculteurs, aux soldats. Donc le Languedoc-Roussillon était prédestiné pour faire du vignoble des vins de masse. Aujourd'hui,
plutôt vin de table, plutôt.
Voilà, des vins de table avec des faibles degrés d'alcool. Depuis 30 ans, ceci a totalement changé, donc il y a une restructuration du vignoble, et puis surtout avec une disparité de produits qui est très importante, et puis un effort qualitatif qui est fait depuis une trentaine d'années, qui peut concurrencer des vins de d'autres régions vitivinicoles françaises, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le plus grand vignoble du monde, et sûrement un des plus grands vignobles en termes qualitatifs. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir déguster des belles choses qui sont produites dans cette zone.
Après de longues heures d'attente, les vignerons sont impatients de connaître le palmarès. Chaque bouteille est dévoilée une par une.
L'Isle 2015, un Languedoc, Grenache, Saint-Cadou.
Colette Vissec est ravie. Cette vigneronne a enfin la médaille d'or qu'elle convoite depuis des années.
Bravo, ça va être
Bon. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'on le soignait, c'est vrai. Ça faisait quelques années qu'on avait eu plusieurs fois des médailles d'argent. C'est notre première médaille d'or et on est très contents.
Or, argent et bronze, 70 médailles ont été décernées lors de cette journée.
C'était un reportage de Sarah Gillemand pour Radio Pays des Raux qui nous précise que le grand prix de ce concours sera dévoilé au mois de juin. 48FM Mende nous parle de la Lozère qui pousse le bouchon. Après la Lozère fait sa comédie, la Lozère pousse le bouchon à Lyon du 12 au 14 mai. Sur le même principe qu'à Montpellier, le conseil départemental va aller se vendre à Lyon. L'objectif est toujours le même, vendre la destination Lozère pour les touristes et pour les actifs souhaitant s'implanter sur le département. Ce sont 60 prestataires et producteurs qui vont se déplacer et investir pendant 2 jours et demi, 530 m² sur la place Carnot. Sophie Pantel, présidente du conseil départemental de la Lozère, au micro de Ludovic Terol.
On s'est rendu compte qu'en fait, les touristes qui viennent chez nous sont souvent issus de territoires dans un rayon de 3 heures autour du département. Donc c'est la raison pour laquelle on a ciblé les villes comme Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse et Clermont. Et l'idée, c'est d'aller présenter à la fois nos producteurs, nos artisans, prestataires de tourisme. Donc on y va évidemment pour qu'après ils puissent revenir en vacances chez nous, mais on a aussi derrière la tête toujours notre politique d'accueil de nouvelles populations, puisqu'en fait là aussi une étude avait démontré que les gens qui venaient s'installer en Lozère, ils avaient souvent découvert notre département et nos territoires à travers d'abord des vacances. Voilà. Donc c'est vrai que ça s'inscrit dans cette stratégie globale. Vous savez qu'on a aussi le travail qui est mené avec nos ambassadeurs. Et par exemple, sur les villes sur lesquelles on n'est pas présent l'année N-1 ou l'année en cours, on a lancé une grande campagne d'affichage avec nos ambassadeurs VIP. Donc cette année, on est affiché sur Marseille et sur Toulouse. Et puis ça tournera après, lorsque l'année prochaine, on sera à Toulouse. C'est Montpellier qui aura la campagne d'affichage avec Clermont, par exemple.
C'était un reportage de Ludovic Terol de 48FM Mende. Il nous précise que la Lozère se rendra sur la place du Capitole de Toulouse l'an prochain, les 7 et 8 avril, et que le budget de l'opération à Lyon tourne autour des 70 000 euros. Et voilà, c'est à la fin de ce carnet de région réalisé par Radio Bartas à Florac, en Lozère, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.